Bonsoir à tous. Je vous propose une lecture dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 17. Le titre du message de ce soir, c'est une question, j'aime bien les questions. Il a choisi de payer, vas-tu choisir de recevoir ? Et ici, nous avons une histoire. On pourrait se poser la question, qu'est-ce que... drôle de base pour cette prédication, mais vous allez voir qu'il y a de vrais liens avec le bonheur que Dieu veut nous donner pour notre vie tout entière. Matthieu, chapitre 17, verset 24. Nous lisons ceci. « Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les deux drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paie-t-il pas les deux drachmes ?» « Si, dit-il, et quand il fut entré dans la maison, Jésus prit le premier la parole et dit, « Simon, qu'en penses-tu ? Les rois de la terre, de qui prennent-ils des taxes ou un tribut ? De leurs fils ou des étrangers ?» Il lui répondit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. Mais pour que nous les scandalisions pas, va à la mer, jette l'hameçon, et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un stataire, prends-le et donne-le pour moi et pour toi. » La somme exacte qui correspondait à ce qui était nécessaire pour payer le tribut, pour payer la taxe. Donc ici, on a une histoire assez simple où finalement, Jésus se retrouve confronté à une offense qu'il pourrait faire à ceux qui le regardent. Et finalement, Jésus, c'est quelqu'un qui est dans une liberté totale. Et on va le voir que de sa liberté, il va choisir de s'astreindre alors qu'il est libre pour que l'autre ne soit pas scandalisé, pour que l'autre ne soit pas offensé. Et on voit que Jésus a un souci, justement, ce que les autres pensent de ses actions. Et on voit qu'il a un souci de ce que les autres puissent vraiment considérer qu'il se soumet complètement à la loi du pays. Et pourtant, comme il l'explique lui-même, de cette taxe-là précisément, il en est exempt. Alors c'est intéressant de regarder d'où vient cette taxe. Et on va regarder dans le livre de l'Exode, et là on a l'origine. C'est une taxe qui a un peu évolué dans l'Ancien Testament, surtout au retour de l'exil des Juifs. Mais l'origine, on la trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 30. Et il est question du dénombrement du peuple d'Israël. Exode 30, verset 12, il est écrit, verset 11, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Lorsque tu feras le relevé des Israélites pour les dénombrer, chacun d'eux donnera à l'Éternel une rançon, le terme est intéressant, une rançon pour sa personne lors du dénombrement. De la sorte, lors de ce dénombrement, il n'y aura pas de plaie parmi eux. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement, un demi-cycle, selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 guéras. » Enfin bref, quand on regarde exactement la somme, ça correspond à ce qu'il y a dans le Nouveau Testament. C'est la même somme. Et finalement, dans cette règle-là, on se rend compte d'une chose, c'est que la personne soit riche ou pauvre, la somme est la même. La rançon à donner est la même. À quoi servait cette rançon ? Elle servait simplement à attester que oui, je fais partie du peuple de Dieu, finalement. Et il y a aussi un autre aspect, j'ai perdu ma page, mais je vais y retourner, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi dans l'Exode, c'est l'âge. On n'y pense pas à ça, mais quand on regarde, alors c'est un peu plus loin, bon, verset 15, bon, on va lire la suite, verset 13, j'étais rendu au verset 13, « Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement, un demi-cycle, selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Un demi-cycle sera prélevé pour l'Éternel. Quiconque sera compris dans le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, donnera l'offrande prélevée pour l'Éternel. Le riche ne paiera pas plus et le pauvre ne paiera pas moins. C'est une somme qui est petite, mais par contre, là où c'est intéressant, c'est que sont concernés que des adultes. Et on voit ici en préfiguration le fait que on ne peut rencontrer Dieu que quand nous avons atteint un certain âge spirituel, et on va pas pouvoir réaliser à quel point Dieu nous aime, à quel point Jésus a payé pour nous, avant d'avoir un certain âge spirituel. Je parle d'âge spirituel, je ne parle pas d'âge physique, parce que c'est vrai qu'il peut arriver que des enfants le comprennent très vite. Mais malgré tout, il faut une certaine maturité pour pouvoir comprendre ces choses. Et c'est aussi la raison pour laquelle on ne baptise pas des enfants. On en a encore une preuve biblique qu'on ne peut pas baptiser des enfants parce qu'ils ne sont pas en âge de se décider. Ici, on a donc une histoire où Jésus va choisir de payer alors qu'il pourrait ne pas payer. Ça en dit long sur beaucoup de choses. Et j'aimerais qu'on puisse lire une autre référence qui va nous faire comprendre et qui va nous amener un peu plus dans le sujet, dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2. Philippiens, chapitre 2. On voit justement le choix de Jésus. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ, à savoir cette aptitude à pouvoir payer alors qu'on est libre. Lui, dont la condition était celle de Dieu, n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Voilà le choix de payer. Et dans cette histoire, finalement, on retrouve en filigrane ce que Jésus a fait pour le monde entier. Là, ici, c'est intéressant aussi de regarder que Jésus, non seulement va envoyer Pierre à la pêche, à la ligne, pour payer pour Jésus, mais aussi pour lui-même. Et à travers la rançon que Jésus paye, il paye pour moi. C'est vrai qu'ici, il va payer pour lui, entre guillemets, une somme qu'il n'avait pas à payer. Et Jésus, quand il meurt à la croix du calvaire, il paye un prix qu'il n'était pas censé payer. Mais non seulement il paye ce prix alors qu'il n'était pas censé le payer, mais en plus, moi, par la croix, par ce prix qu'il a payé à la croix du calvaire, je peux recevoir la somme qui me permet de m'acquitter moi-même de la dette du péché. Voilà de quoi il est question. L'homme tout entier est perdu. L'homme est poussé sans cesse à faire le mal. On n'a pas besoin de se forcer pour faire le mal. On n'a pas besoin de se forcer pour mentir, pour dire des paroles désagréables, pour montrer à tous notre mauvais caractère. C'est naturel. Et on va dire, mais non, mais c'est mon caractère, j'y peux rien. Et oui, notre mauvais caractère, c'est notre nature mauvaise qui s'exprime. Et cette nature mauvaise qui s'exprime, c'est le péché qui habite en nous. On disait tout à l'heure avec les responsables que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si dans mon cœur, il y a beaucoup de pensées mauvaises, s'il y a beaucoup de rancunes, s'il y a beaucoup d'amertume, s'il y a beaucoup de colère, c'est tout naturellement que ça va sortir. C'est tout naturellement que, même si j'en suis pétri, ce ne sera pas que des paroles, ça sera même des actes, ce sera des choses qui vont m'amener beaucoup plus loin. Mais tout ça, ce n'est que le péché qui habite en moi. L'apôtre Paul en parle très très bien dans l'épître aux Romains au chapitre 7, où il explique justement sa difficulté quand il réalise son incapacité à faire le bien, alors qu'il voudrait le faire. Il veut faire le bien, mais il le dit lui-même, « Je n'y arrive pas, il y a une autre loi en moi qui me pousse à faire le mal. » J'ai beau être d'accord, j'ai beau même vouloir faire le bien, je n'y arrive pas, c'est impossible, parce qu'il y a une autre loi en moi qui agit. Cette loi, c'est la loi du péché, et nous y sommes tous soumis dès notre naissance. C'est notre nature qui est ainsi. On peut le lire, David le dit, dans le psaume 51. Je crois que c'est le verset 7. David écrit, « Voici, je suis né dans la faute, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Il n'est pas en train de dire qu'il est le fils d'une liaison adultère, quoi qu'on ne sait pas. Mais ce que David écrit, surtout, c'est que dès la naissance, le péché agit en lui. Il n'y a qu'à regarder nos enfants, comment ils sont les uns avec les autres. Vous allez dans une cour d'école et c'est très très facile de voir que dès le plus jeune âge, les enfants sont capables du pire. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Le péché est là dès notre naissance et dès notre plus jeune âge, il se montre. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu, dit la Bible. Et pour cela, il fallait que quelqu'un paye. Nous avons tous une dette envers Dieu. Et on pourrait lire la suite du chapitre 18 de Matthieu au verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents, une somme colossale, si je devais résumer. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et de payer la dette. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout. » Il savait très bien, en plus en disant ça, c'était une prière, mais il savait très bien qu'il n'aurait jamais été capable de rembourser, certainement. Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Et c'est ainsi que, en ce qui nous concerne, nous avons cette dette du péché qui est remise par le sacrifice de Jésus à la croix du calvaire, parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Il est mort pour tous les hommes. Et ce soir, si tu n'as pas fait cette expérience, laisse-moi te dire et reçois ce soir le fait que Jésus t'a tellement aimé qu'il a choisi de quitter son ciel de gloire pour se faire homme. Et alors qu'il était homme, parmi les hommes, il s'est fait le plus petit, le plus insignifiant. Et j'aimerais qu'on puisse lire dans Ésaïe au chapitre 53 quelques paroles qui nous montrent bien comment Jésus a marché parmi nous. Comment Jésus s'est acquitté de cette dette qui n'était pas la sienne. Je le rappelle, ce n'était pas sa dette, c'était la nôtre. Mais il s'est acquitté quand même de cette dette du péché. Ésaïe 53, verset 1er. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Et là, c'est une question que je vais reposer tout à l'heure. Qui va croire à ce que j'annonce ce soir? Qui va croire à ce qui est annoncé ce soir? Que Christ a payé pour toi. À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé et nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé de Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Christ est venu marcher parmi nous. Il s'est fait serviteur. Il a souffert toute sa vie. Et sa mort même était une souffrance. Il a souffert parce qu'il nous aimait. Un texte dans la parole dit, c'est Jésus qui dit lui-même, « Personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. » J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre reçu de mon Père. » Un autre texte dit: « C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. » Jésus est venu sur la terre pour te sauver, pour te pardonner du péché qui est en toi. Si tu t'approches de lui de tout ton cœur, un cœur honnête, sincère, alors tu peux recevoir cette nouvelle vie que Dieu veut te donner. Parce que Jésus est mort à la croix, il a souffert, il est mort, et après sa mort à la croix, il est ressuscité le troisième jour. Jésus est vivant. Et si ce soir, tu t'adresses à lui de tout ton cœur, et que tu réalises que, oui, honnête avec toi-même, tu considères que, oui, le mal en toi, il est naturel. Tu as besoin, tu réalises que tu as besoin de demander au Seigneur sa grâce. Parce que c'est par sa grâce qu'on reçoit. Pierre, dans cette histoire, il va pécher. Jésus l'amène à réfléchir, mais ce n'est pas de cette réflexion que j'aimerais parler ce soir. C'est tout simple ce que j'essaie de dire ce soir. C'est que Pierre, il va pécher, il va obéir. Il ne va pas se poser de questions. Il ne va pas trouver ça bizarre. Attends, Jésus, tu me dis d'aller pêcher à la ligne, et parmi tous les poissons qu'il y a dans la mer, il y en a un qui va venir avec dans sa bouche une pièce d'argent. Mais s'il mord à l'hameçon, la pièce va s'en aller. Enfin, il aurait pu raisonner, il aurait pu calculer, il aurait pu se dire, mais dans la quantité de poissons dans la mer, comment un seul? Non, il n'a pas cherché à discuter. Il a pris sa canne à pêche, il a pris son bateau et il est parti et il a pêché et il a pu constater qu'il lui est arrivé exactement comme Jésus l'avait dit. Et dans la bouche du poisson, il a bien découvert la rançon. Il l'a reçue par obéissance. Et j'aimerais te dire que ce soir, c'est pareil. Si tu choisis d'obéir, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, dit la Bible. Si tu crois dans le fait que Jésus a tout accompli à la croix pour toi, alors, si tu décides d'obéir, eh bien, tu pourras dire que tu es sauvé. Tu pourras recevoir la vie que Dieu veut te donner. Il te suffit simplement de t'approcher de Dieu, dans ton cœur, une démarche de cœur. Pas forcément une démarche physique où on va te demander de t'avancer, mais une simple démarche de cœur. Où, devant Dieu, il y a un face-à-face avec lui. Devant Dieu, tu vas le voir, tu lui fais cette prière et tu lui dis: « Seigneur, pardonne-moi pour le mal qui est naturel en moi, pour le péché qui habite en moi. Seigneur, fais de moi un homme nouveau, fais de moi une femme nouvelle. Et Seigneur, je désire recevoir ta vie. Montre-moi comment tu me vois. Seigneur, je te demande pardon. » Une prière toute simple qui demande à Dieu du secours. Une prière qui est ni plus ni moins que l'obéissance. Et cette obéissance va se transformer en quelque chose de tangible, quelque chose de réel, à savoir une vie nouvelle qui va vous envahir. Une paix de Dieu que vous ne pourrez pas décrire. Une joie qui vient du ciel que vous ne pourrez pas décrire non plus. Un visage changé. J'ai en mémoire ce jeune, on a un service de baptême qui se profile. Et parmi les futurs baptisés, nous avons un jeune. Pour l'avoir connu à l'adolescence, je peux vous dire devant Dieu que son visage a changé. Et ça se voit. Il s'est converti. Il a la paix de Dieu. Et ça se voit sur son visage. Il n'y a même pas besoin de lui poser de questions. Ça se voit. Quelqu'un qui fait l'expérience, qui fait la rencontre avec Dieu, ça se voit. Il brille. C'est naturel. Ça devient une nouvelle nature, cette paix de Dieu qu'on reçoit. Est-ce que ce soir, alors que Jésus a choisi de payer, tu veux choisir de recevoir? On se recueille quelques instants. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour ta parole. Oui, elle est simple. Elle nous dit que tu as payé à notre place à la croix. Et nous voulons réaliser encore que nous avons simplement à t'implorer, à te demander ta grâce, à te demander pardon pour nos péchés. Et parce que tu es vivant, tu intercèdes pour nous auprès du Père, parce que tu as payé la croix pour nous. Les clous ont percé tes mains et tes pieds. Ton sang a coulé à la croix pour que nous puissions être réconciliés avec le Père. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Merci pour cette grâce qui est la nôtre, que de pouvoir simplement te demander la grâce d'être sauvé. Oui, Seigneur, ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par nos mérites, seulement par ta grâce, seulement par ta vie que tu as donnée. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la justice de Dieu qui a été accomplie en toi. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour si un ami ce soir est là et se pose cette question, je te demande ta grâce, Seigneur, pour que par le Saint-Esprit, tu puisses parler à son cœur et qu'il puisse avoir cette démarche simple devant toi. Merci, Seigneur, pour ta grâce et tes bienfaits. Dans le nom de Jésus, amen.